Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères, prenez bien garde à la manière dont vous vous conduisez, que ce ne soit pas en insensé, mais en homme prudent, qui tire profit du moment présent, car les jours sont mauvais. Cette exhortation à la prudence dans un monde mauvais est aussi actuelle aujourd'hui que quand saint Paul l'écrivait aux Éphésiens il y a près de 2000 ans. La prudence est absolument nécessaire pour éviter les pièges du démon et pour arriver au ciel. Mais pour être prudent, il faut savoir ce que cela veut dire. Nous allons voir à quoi sert la prudence et en quoi consiste-t-elle. D'abord, à quoi sert la prudence? Notre vie surnaturelle est composée d'un entrecroisement d'innombrables mouvements de l'âme. Il y a, comme le dit le Père Gardeil en parlant de la prudence, un nombre effrayant de pièces de notre organisme interne. D'abord, notre raison et notre volonté, qui sont capables de se porter sur une infinie d'objets, nos sens internes et externes, nos passions, et au fond de nous, le foyer du péché que nous avons depuis le péché originel, et de notre côté, les exigences très élevées des vertus théologales que nous avons reçues au baptême. Pour gérer tout cela, pour y mettre de l'ordre, il faut une faculté manœuvrière. C'est le rôle de la prudence. La prudence est souvent comparée à un cocher qui tient les rênes pour diriger les chevaux fougueux, qui tire le char de notre âme, c'est-à-dire ses facultés, qui nous tire dans tous les sens. La prudence guide notre raison pratique dans l'application effective des principes généraux de la vie chrétienne à toutes les circonstances particulières qui peuvent se présenter dans notre vie. Alors, en quoi consiste la prudence? La prudence a trois actes. C'est d'abord la délibération, ensuite le jugement, et enfin, la réalisation. Délibération, jugement, réalisation. D'abord, la délibération. On l'appelle aussi conseil. Il s'agit d'examiner, à la lumière des grands maximes de l'Évangile, un cas particulier qui se présente à nous. Par exemple, on se trouve dans la nécessité de corriger un inférieur. Donc, on se rappelle les maximes de l'Évangile. Donc, qui aime bien, châtie bien. Mais aussi, faites à autrui ce que vous aimeriez qu'il vous fasse. Ne regardez pas la paille dans l'œil de votre serviteur, de votre prochain, mais la poutre dans votre œil. Et donc, en se rappelant ces maximes, on s'achemine vers une conclusion pratique. Je dois corriger, mais avec charité, avec douceur. Ce conseil intérieur suppose un approvisionnement continuel de ces maximes évangéliques par la lecture des bons livres, par l'écoute des prédications, etc. Et pour que cette délibération soit complète, il faut plusieurs choses. D'abord, une certaine intelligence par rapport au cas présent, c'est-à-dire de voir les choses comme elles sont. Ensuite, la mémoire du passé, utiliser notre expérience pour mesurer nos capacités actuelles, une certaine sagacité, c'est-à-dire une sorte de flair par rapport à l'avenir, comment ça va se passer, et puis surtout, la docilité pour faire appel à l'expérience des autres. Faire bon accueil aux conseils d'autrui, de demander l'avis des plus âgés, des plus instruits, consulter l'expérience collective contenue dans les livres. Là, si on prend un autre exemple, est-ce que je garde mon portable avec moi toute la soirée? Est-ce que je l'amène avec moi dans ma chambre? Pour avoir une certaine intelligence du cas présent, voir les choses comme elles sont. Portable, c'est un outil génial, mais redoutable, plein de dangers. Mémoire du passé. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu 2 heures à regarder des vidéos stupides et je me suis couché tard et le lendemain, je n'étais pas en forme. Une sagacité pour flairer comment ça va se passer. On sait très bien, en l'amenant dans la chambre, ce qui va se passer. Et puis une docilité par rapport aux conseils qu'on a reçus. Est-ce qu'un prêtre ou notre confesseur nous a conseillé de garder le portable dans un lieu commun de la maison, par exemple la cuisine? Donc voilà pour la délibération. Ensuite, c'est le jugement. C'est le jugement définitif et absolu qui clôt notre délibération. Alors, il y a une difficulté, c'est que telle décision peut être préférable sous tel aspect et telle autre décision est préférable sous un autre aspect. Où est le juste milieu? Et c'est d'autant plus difficile à juger parfois que notre délibération était nuancée et un peu poussée. Donc, comment acquérir le jugement? D'abord, il faut faire confiance aux avis des plus sages. D'ailleurs, cela est le seul moyen à la disposition de ceux qui manquent du bon sens. Ou pour les scrupuleux, il faut faire confiance et rester docile. Ensuite, il faut une sorte de discipline préventive contre tout ce qui peut obscurcir notre raison. Nos idées fausses venant de notre imagination, de notre ignorance, de nos préjugés, ou de notre penchant à l'entêtement. Il faut lutter contre tout ça. Ou bien nos passions, il faut lutter contre nos passions par la continence, les mouvements de colère, de tristesse, de concupiscence peuvent grandement fausser notre jugement. Donc il faut travailler sur la maîtrise de soi par des mortifications et des pénitences. Donc après la délibération et le jugement, c'est la réalisation. C'est la dernière étape. Mais cette dernière étape comporte elle-même 2 parties. C'est se décider et ensuite se commander. Se décider. Dans le jugement, on a vu ce qu'il faut faire. On a compris dans l'intelligence le parti à prendre. Et maintenant, il s'agit d'un acte de la volonté libre pour choisir effectivement ce qu'on va faire. Voir ce qu'il faut faire et hésiter quand il faut prendre parti, c'est l'indécision. Et cette indécision vient souvent d'une exigence exagérée de certitude avant d'agir, ou de la peur des responsabilités, ou de la peur de l'effort. Mais la cause la plus profonde de cette indécision, c'est tout simplement notre libre arbitre. Nous restons toujours libres. Même l'urgence d'un devoir clairement connu par l'intelligence ne peut forcer notre volonté. Le mot « négligence » vient de « nec eligere », veut dire « ne pas choisir ». Et son contraire, la « diligence », vient de « diligere », qui veut dire « aimer avec choix ». Notre indétermination vient donc d'un manque de ferveur dans notre amour. Le remède consiste donc à faire appel à cet amour d'un bien supérieur qui est inclus dans toute décision. C'est-à-dire, chaque choix libre fait partie d'un ensemble. Nous ne choisissons des moyens que pour réaliser un but final que nous avons déjà en tête. Quand je prends la décision de prendre la A11 dans la direction est au lieu de ouest, c'est parce que j'ai en vue la fin pour aller à Paris et non pas à Nantes. C'est la fin qui dirige le choix de nos moyens. Quand je choisis de soigner un malade, c'est pour l'amour de Dieu. Donc plus nous aimons et nous voulons la fin en vue, plus nous supprimons nos hésitations, nous détruisons notre irrésolution dans sa racine. Donc, et c'est très important, pour rendre notre volonté plus forte et plus résolue dans une décision difficile à prendre, ce n'est pas plus de temps pour réfléchir qu'il faut, mais plus d'amour de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de revenir en arrière pour ressasser les motifs, pour réfléchir. On est déjà passé par cette étape. C'était le jugement. Maintenant, il faut agir. Et pour cela, pour fortifier notre volonté, il faut revenir sans cesse aux sources de l'amour, les sacrements, la prière, la méditation des bontés de Dieu, l'Évangile. Voilà, et puis maintenant qu'on est décidé, c'est la toute dernière étape pour la réalisation, c'est se commander. Le commandement est l'acte par excellence de la prudence. Et autant il est bien de prendre le temps qu'il faut pour délibérer, autant il ne faut plus hésiter quand il faut se commander et passer à l'acte. Il y a une grande différence entre se résoudre et se commander. La décision se termine dans notre intérieur. Mais pour nous commander, nous nous tournons vers l'extérieur. Il faut descendre de cette partie supérieure de notre âme, la raison et la volonté, pour commander à la partie inférieure, le domaine des passions et des relations avec autrui. Là, nous avons affaire à un monde qui s'apprête à résister à notre décision. Alors, voyons comment cela se passe. D'abord, l'intelligence a seulement proposé à la volonté son choix. C'était le jugement. On a jugé que tel choix est à faire, et l'intelligence propose ça à la volonté. Ensuite, par une décision de la volonté, toute hésitation a cessé. On se décide, c'est le commencement de la réalisation. Et maintenant, pour se commander, c'est-à-dire par le commandement, la volonté bien décidée s'empare de l'intelligence, lui interdisant de considérer tout ce qui peut aller contre la décision prise. Elle lui fait oublier tous les autres choix. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. La volonté a brûlé tous les ponts et ne peut qu'avancer dans le sens proposé par l'intelligence. On transforme en ordre absolu ce devoir de la conscience qui n'était auparavant que proposé. Le commandement est cet ordre que l'intelligence, sous l'empire de la volonté décidée, impose à la volonté exécutive et agissante. Donc pour conclure, résumons rapidement comment cela se passe. Quand on a un choix à faire, ça commence par la délibération et le jugement dans notre intelligence. On passe en revue les maximes de l'Évangile pour nous éclairer sur les divers choix à prendre. On juge un choix qu'un choix est mieux que les autres, et ensuite, dans notre volonté, on passe à l'acte en imposant, donc la volonté impose à l'intelligence tel choix, pour que ensuite l'intelligence ne montre que ce choix à faire en à la volonté. Donc pour prendre quelques résolutions, il faut voir où dans tout ce processus nous pêchons le plus souvent. Est-ce que c'est dans la délibération? Est-ce que il y a un manque d'instruction, est-ce que nous lisons assez, est-ce que nous instruisons assez sur les maximes de l'Évangile, ou est-ce que c'est plus tard dans ce processus que nous péchons, est-ce que c'est plutôt dans l'indécision, dans la volonté? En ce cas-là, la résolution à prendre, c'est de multiplier les actes d'amour qui fortifient notre volonté. Faire plus de communion spirituelle à la maison, fréquenter un peu plus les sacrements. Alors, demandons ces grâces à la très sainte Vierge Marie, celle que nous appelons Virgo Prudentissima dans la litanie, Vierge très prudente. Elle-même devait passer par ces trois étapes avant de donner son consentement à l'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel lui proposait de devenir la mère de Dieu. Elle a délibéré, elle a jugé, puis ensuite elle n'a pas hésité, elle est passée à l'acte. Demandons-lui de nous donner cette même prudence qui vient, en fin de compte, d'un très grand amour de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.